Reine en sabots, écrit par Gustave Toudouze. Canon sur mer, sabots sur terre. Oh diable! Fit Joseph Carne, sa courte taille trapue demi-ployée sur l'escabeau qui lui servait de siège, en s'arrêtant de frapper à coups réguliers le fourneau de sa pipe pleine de cendres de tabac contre le bout de sa botte, pour mieux écouter, l'oreille tendue du côté sud de la maisonnette au mur casematé, dont l'unique pièce au mobilier rudimentaire, avec ses lits de camp, se trouvait éclairée par la flamme rousse vacillante d'une fumeuse chandelle de résine placée sur la table. V'là que ça souffle de par là à tout déralinguer à cette heure, alors qu'il y a un instant, il ventait grand largue de l'autre bord. Plein sur roi, c'était indiqué, répliqua Corentin Morvan, qui, de ses petits yeux vifs, sous l'épaisse barre de poils des sourcils, essayait de percer l'obscurité de la nuit en collant une grosse face de cuivre rouge au collier de barbe brune piqué de fil blanc contre la vitre encrassée du corps de garde faisant face à l'intérieur des terres et au fond de l'anse de Primel. Nord-est toute la journée, c'est toujours coup de sud-ouest pour la soirée et la nuit, et en novembre que nous sommes. Pas fameux pour ceux qui sont en mer. Pas vrai, Barzic ? Termina-t-il en s'écartant pour livrer passage à un camarade qui ouvrait la porte en rentrant dans le poste. T'as raison, Morvan. Une vraie nuit de mois noir, appuya Barzic, refermant soigneusement le bâton derrière lui, pour se rapprocher pesamment d'un dandinement lourdeau de la cheminée où rougeoyaient encore quelques braises. Il ne fait pas meilleur sur le plancher des vaches que sur mer, et on sera mieux sur son lit que dehors. Si vous entendiez le grondement dans la passe et au large, j'en ai mon content et pas fâché de céder la place à un camarade. La nuit sera rude. Mauvais moment pour prendre le quart. Hein, tonton Guillaume, c'est ton tour, vieux matelot, bien que tu sois notre aîné à tous et de pas mal. Comme tu en es le cadet, Cornélie. Mais bah, la carcasse est encore solide, objecta Guyader, dressant un grand corps maigre, osseux, aux muscles de fer, sous une tête à toison grisonnante. Des quarts de nuit, j'en ai pris de plus dur du temps que je naviguais par les mers de tous les pays. Je suis paré en grand, sans avarie sérieuse dans la coque, la mâture ni la voilure. Qu'il vente, pleuve ou grêle, ma vieille peau n'en verra jamais tant qu'elle n'en a vu aux Amériques pendant la guerre de l'indépendance, en Méditerranée au temps des Aboukirs et des Algésiras, ou encore dans cette mer des Indes, à l'époque où, quand ce n'était pas un typhon qui la balayait, c'était la mitraille anglaise qui l'époussetait à ne pas lui laisser un grain de poussière. Sa physionomie expressive, le grand nez crochu pointé en avant en proue de navire, mettait en mouvement les plis tannés de son visage entièrement rasé. Les yeux gris-bleus, semblant éclairer au loin des souvenirs, tandis que ses mains osseuses, aux grosses veines pareilles à des câbles, traçaient devant ses auditeurs des formes de choses qu'elle paraissait faire ressortir du passé. Il ajouta, retombant à des tristesses qui couvrirent soudain de buée ses prunelles brillantes. « J'en aurais toujours pas tant à supporter que ceux de notre grande armée là-bas, dans leur neige et leur glace de Russie. Avez-vous appris ce que racontent les derniers bulletins ? On m'en a donné connaissance aujourd'hui à Plougasnou, où j'étais allé dire le bonjour à mes neveux et nièces. Paraîtrait que Moscou est en cendres, que nos troupes reviennent, que les grands froids ont commencé et que les chevaux crèvent par milliers. C'est terrible, cela. » Il termina plus bas. « On ne parle pas des hommes. Il y en a de chez nous. Et les v'là en retraite. Ce sera rude. » « Moi ?» protesta Carne. « J'ai confiance quand même. » car ils l'ont avec eux, lui. » Du doigt, il désigna sur le mur une image grossièrement coloriée qui représentait Napoléon à Austerlitz. Pensif, Guyader hocha la tête. « Bien sûr, il faut toujours espérer. J'ai lu aussi dans le bulletin « La santé de sa majesté n'a jamais été meilleure. Mais nos pauvres gars, tout de même, en v'là pour eux de la misère. » Il n'acheva pas, l'esprit perdu au loin, et ses camarades respectèrent son mutisme soudain. Ils étaient quatre gardes-côtes dans ce poste solitaire de la pointe extrême de Primel, bizarre et curieuse avancée de roche, enfoncée comme un coin dans la Manche, presqu'île terminée par une île qu'un petit pont fragile relie au continent et qui plonge les parois à pic de sa haute pyramide dans la mer comme une sentinelle perdue placée là pour protéger l'entrée de la rivière de Morlaix entre la côte de Saint-Paul-de-Léon, Roscoff, l'île de Bas à l'ouest, la baie de Saint-Michel-en-Grève, la côte lagnonnaise, Perros-Guirec, les sept îles à l'est, à la fois un écueil formidable et un guet merveilleux. Tous anciens matelots, ayant servi les uns et les autres sous ces chefs fameux qui s'appelaient Destin, du Couédic, Suffren, Linois, Villaret et Joyeuse, ils appartenaient à quelques communes de ce Plougasnou Primel, situé au nord de Morlaix, entre Lannion et Saint-Paul-de-Léon. Maintenant que l'âge, les infirmités contractées au service, les blessures, les longues années de campagne sur mer leur avaient interdit une besogne plus active, ils se trouvaient employés à cette surveillance des côtes, nécessitant moins de fatigue et de jeunesse, mais qui avait cependant une si grande importance, à une époque où la mer appartenait presque toute aux croisières anglaises, où deux flottes d'Angleterre bloquaient en partie Brest et Cherbourg, et où il y avait toujours à redouter quelques descentes sur un point ou sur l'autre de nos côtes de France, alors que toutes les forces de l'Empire étaient portées en Russie, tandis que, d'autre part, la guerre continuait en Espagne et Portugal. Mais certainement de tous, le meilleur guetteur, comme il avait été le meilleur matelot, le canonnier le plus habile, était ce Guillaume Guyader, malgré son demi-siècle dépassé. Aussi l'avait-on avec joie conservé au service. Comme il avait le nez en bec de l'oiseau de mer, habitué des bourrasques, il en avait l'œil extraordinaire, avec une portée de vision incroyable, lui permettant de distinguer ce que les autres ne faisaient que deviner. Son seul défaut était une crédulité enfantine. Chez lui, pendant que le corps avait acquis tout son développement, que le côté physique avait atteint la perfection, l'âme était restée primitive, reflet de toutes les croyances du pays breton, attardées aux légendes séculaires, aux contes dont les bonnes femmes avaient bercé ses premières années. Cela l'avait suivi partout, sans que les rudesses de la vie, que les voyages, que les grandes luttes effroyables auxquelles il avait été mêlé, lui, le combattant d'Aboukir, d'Algésiras, de Trinquemalet et de tant d'autres batailles navales, eussent pu détruire cette fleur de superstition, demeurée vivace au fond de son être. Tout en étant devenu le doyen d'expérience, consulté souvent comme celui qui sait, qui est seul capable de donner un bon avis, de représenter le bon sens, il était resté le breton de la tradition antique, fidèle à la croyance des choses qu'on ne sait pas et qui sont, de ce qu'on ne comprend pas, du mystère. Quand, sortant de la maison de garde, il commença à longer le sommet de l'escarpement rocheux qui, du poste, conduisait à l'épaisse tourelle de pierre, servant de guérite pour surveiller la mer, les côtes et dominant presque toute la presqu'île, il était dans une disposition d'esprit toute particulière, par suite de quelques phrases concises qu'il venait d'échanger avec ses camarades, car elles avaient été réveillées en lui un tas d'idées, de souvenirs qui y dormaient dans un oubli plus ou moins profond. Par suite d'une habitude de monologue prise durant ses heures de solitude et de quart nocturne, il grommelait tout en marchant, regardant le ciel, examinant la mer, humant autour de lui l'air et la nuit.
On ne voit autant dire rien et on entend quasi trop. Brisant partout,
la soute au charbon avec le tapage de la marmite du grand diable d'enfer. Barzik a dit vrai. Une méchante nuit qui se prépare, sans compter les invisibles de la nuit. S'arrêtant auprès de la guérite, il s'orienta, cherchant à distinguer quelque chose dans la mobilité frissonnante des ténèbres presque impénétrables, où tout remuait, se déplaçait, glissait. Par instants rapides, il saisissait le passage des nuages d'encre plus compacts, s'échevelant sur le fond devenu plus clair, par opposition d'un ciel absolument noir. Surprenait sur mer des blancheurs voletantes d'écume, cerclant tout à coup des blocs d'écueils, sentait passer sur ses mains, sur sa figure sans rien voir, le flottement de linceuls humides des brumes. Lui, si vaillant contre tout danger positif, et qui n'eût pas reculé seul contre 3 ou 4 adversaires, même plus jeunes, il ne se sentait pas rassuré. Soit qu'il subit l'influence de l'atmosphère qui l'enveloppait, soit que la mélancolie qu'il avait envahie à la fin de la conversation avec Karn, Barzik et Morvan l'impressionna péniblement. Plus bas, tout près de lui, le long de la grève orientale, bordant le champ qui séparait la crête rocheuse, sur laquelle se trouvaient le poste et la guérite, des derniers contreforts fermant la presqu'île de Primel, une petite chapelle en ruine, la chapelle de Bélec, mais inquiétante parce qu'elle était abandonnée et qu'on la disait élevée sur l'emplacement d'un temple païen du dieu gaulois Bel. Il s'attendrissait cependant à l'idée de cette pauvre épave qu'il se rappelait autrefois, dans sa jeunesse, avoir vue très fréquentée, où l'on faisait des pardons, des fêtes religieuses et qui, depuis la Révolution, ayant été fermée, ne s'était plus rouverte, s'en allait pierre par pierre. Puis, sur elle, une légende courait qui en faisait la demeure d'un prêtre revenant. Sans qu'il s'en rendît compte, parmi bien d'autres idées, celle-ci hantait par instant Guyader, quand ses regards, las d'avoir inutilement fouillé l'étendue sans rien apercevoir, revenaient du côté de la chapelle. Mais il la chassait pour s'absorber dans d'autres souvenirs plus précis, résultant de la causerie récente. Il remontait très loin dans le passé des siens, faisant des comparaisons avec l'époque présente, se revoyant tout petit d'abord, à Saint-Jean-du-Doigt où il était né, comme perdu au milieu des siens, de cette famille si nombreuse que, à elle seule, elle semblait tenir et posséder tout le pays, englobant à la fois Plougasnou et Saint-Jean-du-Doigt par le rayonnement de 2 branches, aînée et cadette d'une même famille, celle des Guisnou. Lui ne s'y rattachait que par alliance, sa sœur ayant épousé le Guisnou de Plougasnou. Et alors, ça avait été une succession presque continue d'aventures, de misères et même de catastrophes, à l'écart desquelles l'avait tenu pendant longtemps son existence de marin, toujours sur mer et loin des siens. C'était surtout quand l'âge de la retraite l'avait ramené à terre qu'il avait su à peu près ce qui s'était passé, sans pouvoir en connaître cependant tous les détails. La branche cadette de cette famille des Guisnou avait disparu, après des incidents violents qui s'étaient passés au moment de la Révolution, et il ne restait plus que la branche aînée des Guisnou, composée du père, de la mère, de 3 fils, de 2 filles mariées et de la plus jeune, Anne Guisnou, la nièce préférée de Guyader. Ces choses, d'autres aussi, traversaient l'esprit du guetteur, tandis que, de sa guérite, il écoutait tantôt avec attention, tantôt plus vaguement les bruits de la nuit, que dominait la plainte furieuse du vent d'ouest, soufflant toujours en tempête, et les rugissements de la mer dont la rage ne s'apaisait pas. L'âme tout émue, il songeait, tandis que ses camarades dormaient tranquilles dans la maison de garde, à cette grande armée perdue là-bas dans les glaces et dont faisaient partie des jeunes gens qu'il connaissait, les fils de quelques-uns des habitants de Plougasnou, de Saint-Jean-du-Doigt, des communes environnantes. Et cela se mêlait aux événements de sa vie, au drame de sa famille. Au-dessus de sa tête, comme il sortait un instant de sa guérite, il constata un changement. Le ciel s'éclairait un peu. On commençait à deviner la lune, une lune très pâle, entouré d'un halo étrange, essayant de percer l'épaisseur énorme des voiles tendues entre le ciel et la terre. Cela donnait une couleur fantomatique à toute cette partie du pays avec les côtes découpées, les écailles hérissant l'étendue, la mer mauvaise, pleine de rouleaux d'écume, de baves blanches balayant les rocs noirs. Il y avait partout du mystère, de l'inquiétude. Guyadère, avec son âme impressionnable, eut l'intuition de quelque chose qui allait venir et qui le troublait d'une attente angoissante. Maintenant qu'il distinguait mieux les objets, il les trouva plus inquiétants, bien qu'ils lui fussent familiers. La pointe de la décapitation, la roche Zamégues à sa gauche, les chaises du Primel à sa droite revêtaient des formes monstrueuses qu'il ne leur connaissait pas. Il écoutait anxieux les plages bruissantes où sonnaient les galets, les chocs dans les grottes sous-marines, des grondements formidables, des explosions effrayantes, des bouillonnements de chaudières en ébullition. Sur tout cela, l'invisible et le visible se succédant, selon que le vent épaississait les grands nuages qu'il apportait incessamment du sud et de l'ouest, vapeurs grises, vapeurs blanches, longs voiles traînant, se déchiquetant aux aiguilles des roches, balayées par la rafale sauvage et hurlante ou qu'il les dispersait et que la lueur blafarde des passagères de la lune revenait. Soudain, il crut entendre un son tout autre, sorte de grelottement argentin perdu dans cette tempête et tranchant par sa faiblesse même sur les tapages effroyables de la nature. Ce bruit léger l'émut plus que les rugissements, il fit. On dirait une clochette. Malgré lui, ses regards descendirent vers la chapelle. Il poussa un cri. Une lumière, une apparition, le prêtre maudit. Et il songea qu'il était minuit, que c'était l'heure des visions, des apparitions. Maintenant, le bruit sonnait tout autre sur la roche, léger, cadencé. Clac, 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 clac. Des sabots. La duchesse aux sabots de bois. La reine Anne, peut-être, qui revient visiter son pays. Que se passe-t-il? Il crut à un réveil de tous les invisibles dans cette nuit de tempête et de ténèbres. Une lueur brillait, intermittente, paraissant venir de la chapelle dans laquelle il savait que personne ne pénétrait plus depuis longtemps déjà. Les cierges que la main glacée du trépassé rallumait, bien certainement, et cette clochette, celle de la messe sans doute, le prêtre revenant était là. Il eut un instant la tentation d'aller courir au poste, d'éveiller ses camarades, de s'assurer de la réalité de la vision. Mais par instant, la lune se voilait, on ne distinguait plus rien. La lueur disparut. Avait-il vu réellement? Avait-il rêvé? La lune reparut un instant, juste le temps de lui permettre d'entrevoir ou de croire entrevoir une silhouette vague, impalpable, à la robe flottante, semblant glisser et disparaître dans les bandes de brume qui passaient dans le creux. Mais prêtant l'oreille, il reconnut le claquettement des sabots, de sabots légers, surnaturels, qui allaient, s'éloignant. Et cela le dérouta, le faisant hésiter entre deux visions. Dans la chapelle, plus de lumière, plus de grelottement argentin. Le prêtre revenant avait disparu. Les sabots encore, vers les roches. Des sabots de mystère dont le son ne ressemblait à rien de ce qu'il avait entendu. Il écoutait. Un autre bruit sourd, lointain celui-là, résonna derrière lui. Il se retourna stupéfait, bouleversé. La nuit était revenue complète. On ne distinguait plus rien. Encore un autre grondement à peine perceptible. Mais ce n'était pas l'orage, bien que, parfois, il eût assisté à pareil phénomène, à cette époque d'un orage en fin d'automne, commencement d'hiver. Non, non, ni le suroi, ni l'orage, ni le tonnerre. Son cœur de vieux marin, d'ancien canonnier, avait bondi. Il balbutia. Le canon, l'anglais, là-bas vers les Triagoses. On se bat sur mer? C'était presque insensible et il lui fallait faire l'effort de concentration de toutes ses facultés de son ouïe exercée pour reconnaître ce bruit, d'autant plus que le vent était contraire et n'apportait pas les sons de la haute mer. Mais un instinct le guidait et comme un troisième coup retentissait, il affirma: le canon, l'anglais qui donne la chasse à quelques bâtiments de chez nous. Il ne songeait plus du tout au bruit de la lande. Toute fantasmagorie s'envolait devant ce bruit connu, précis, qui le rendait à la réalité. Il eût voulu pouvoir voir, suivre ce qui devait se passer là-bas tout à l'horizon sur mer. Il lui semblait encore y être. Le canonnier du héros, le vaisseau amiral à Trinquemalé, de la surveillante combattant le Québec, se retrouvait tout vibrant, prêt à se battre, à courir au canon. Plus rien. On ne distinguait rien. Que la mer grondante battant les roches avec la même furie. Que les ténèbres opaques, succédant aux ténèbres transparentes, qui permettaient de voir un peu, mais en déformant tous les objets. Guyadère crispait les poings de fureur. Ne pas savoir ce qui se passait par là, devant lui, ne pouvoir y aller. Si au moins on avait aperçu l'éclair des coups de feu, mais rien toujours. Des larmes lui en montaient aux yeux de son impuissance, de la rage de son inaction. Le cliquetis des sabots sonna encore, inquiétant, irritant. Il eut un geste du poing vers l'endroit d'où ce bruit léger semblait venir, comme s'il eût voulu le chasser, lui reprochant de l'arracher à cet autre bruit qui accaparait toutes ses facultés, tous ses désirs, tout son être. Dans les fantômes que lui montraient les courtes éclaircies, il croyait à chaque instant reconnaître la silhouette de bâtiments se poursuivant toute voile dehors. Il criait bras tendus, « Une frégate, je la vois !» L'hallucination s'effaçait. C'était un jet d'écume contre la pointe de Primelle. La nuit revenait de nouveau. Mystère au large, mystère sur terre. Le vieux guetteur eut la sensation que le mystère l'enveloppait de tous côtés, l'étreignait de son énigme indéchiffrable. Brusquement, sur sa gauche, comme la lune se montrait, dans le clair-obscur, une haute voile passa silencieuse à frôler les rochers, si près que cela sembla impossible à Guyadère qui balbutia. « Il faudrait connaître l'entrée de la passe comme moi pour oser cela. » J'ai cru voir, ce n'était pas. On eût dit un oiseau géant, frôlant de son aile immense les écueils. Il songea au vaisseau fantôme. Le cœur lui battait comme une cloche dans la poitrine. Tout cela n'était-il pas un rêve? Quand Guillaume Guyadère rentra au poste, il ne dit à aucun de ses camarades ce qu'il avait cru voir et entendre cette nuit-là. Troublé et inquiet, se demandant si cela n'était pas signe de sa fin prochaine, anxieux d'avoir été comme le trait d'union invisible entre ces deux bruits mystérieux, celui venu de la mer, celui venu de la terre, et qui avaient paru se rapprocher l'un de l'autre, se rejoindre, se réunir pour des destinées ignorées, et dont il aurait été l'unique témoin, lien mystérieux entre ce canon et ses sabots. Il lui sembla que l'âme légendaire de la Bretagne flottait sur lui, l'emportant dans son tourbillon.